Robert Inucci, bonjour.
Bonjour.
Décidément, vous aimez bien Avignon, hein.
Oui.
Vous étiez là il y a 15 jours pour... c'était la deuxième représentation de Homériade, hein, le texte de Dimitriadis, que vous avez donné de nouveau avec l'Orchestre Lyrique de Région dirigé par Samuel Jean. Vous êtes actuellement à répétition à La Fabrica. Vous allez être l'invité des premières rencontres de La Fabrica proposées par le Festival d'Avignon concernant l'édition 2017. Il sera donc question de l'enfance à l'œuvre. C'est le titre de la création que nous allons découvrir cet été. Qu'est-ce que dans l'enfance forge l'inspiration et amène à la création? C'est cette question qui est à la base du spectacle?
Oui, c'est une chose qui me travaille justement régulièrement. Qu'est-ce que l'on doit à l'enfance? Qu'est-ce que l'on doit à la transmission que l'on reçoit pendant ces jeunes années qui parfois, pour toute la vie, viennent vous travailler et faire que quelqu'un fait ce qu'il fait. Donc la vocation, par exemple, puis la distinction entre ce qu'on appelle le travail et ce qui nous œuvre, parce que parfois le travail n'œuvre pas les gens. Donc l'œuvre et le travail, c'est différent. Et ça me fait penser à cette phrase que Arthur Rimbaud a dite, « La main à la plume vaut la main à la charrue ». Donc, est-ce que le travail intellectuel est un travail? Est-ce qu'il n'y a que le travail qui procure de l'argent, par exemple? Ou est-ce que c'est autre chose, cette distinction entre l'œuvre et le travail? Donc,
vous avez cité Rimbaud. Rimbaud, il fera partie du spectacle, puisque j'ai l'impression que vous voulez poser cette question, mais à travers, justement, l'inspiration et la vocation d'un certain nombre d'écrivains et de poètes.
Oui, à travers leur écriture, surtout. Hein. Relever cette parole qui est couchée, la dire aux gens, et faire en sorte que chacun soit touché par cette parole qui nous est dite, et que les auteurs cherchent à nous transmettre, hein, ce désir de ne pas oublier les traces de l'enfance. Qu'est-ce qui fait qu'on est construit dans cette enfance pour parler aux autres, quand on est poète, quand on est auteur, quand on est scientifique peut-être aussi.
Mais vous voulez parler de la naissance de la vocation chez Proust ou chez Romain Gary, ou alors vous voulez proposer un spectacle avec des textes qui peuvent susciter des vocations?
Les deux, sans doute. Susciter la vocation, ça c'est un beau travail des artistes aussi, de savoir que c'est parce qu'on voit quelqu'un à l'œuvre justement qu'on se dit « tiens, pourquoi pas moi-même ?» Et il y a un éloignement du grand public, de la littérature, où on se dit, au fond, elle est éloignée de nous. Mais quand le truchement des acteurs permet par le viatique des auteurs de toucher l'oreille du public, là, il y a un beau travail pour le théâtre qui se met en chantier. Donc vous avez cité Romain Gary, il parle beaucoup de cela. C'était beaucoup sa mère qui l'entraînait à avoir une vocation. Elle lui disait qu'il fallait qu'il soit danseur. Alors il a tenté d'être danseur, mais elle ne voulait pas qu'il soit seulement danseur, elle voulait qu'il soit Nijinsky. Alors voilà, quand il s'agissait d'être auteur... Il s'agissait d'être un auteur. Elle lui disait, il fallait que tu sois au moins comme le président de la République, Victor Hugo. Alors, Victor Hugo n'a jamais été président de la République, mais dans l'image de la mère, c'était devenir quelqu'un, au fond. Et Gary n'a eu que cette cesse de devenir quelqu'un. Et on sait que ça a été un grand tourment, et c'est par la littérature qu'il a réussi à devenir le grand auteur qu'il a été deux fois, puisqu'on sait qu'il a eu deux fois le prix Goncourt, sous des noms différents.
Alors vous, par exemple, votre vocation, elle est liée à isotherme et thermostat.
Ah oui, mais complètement. Pour moi, c'est très important. Ça va me permettre de parler de ce que vous entendez derrière ces mots, Michel, c'est que c'est l'éducation artistique et culturelle, moi, qui m'a construit. Ouais. C'est en découvrant des clowns dans la cour de mon école, donc dans ce qu'on appelle l'éducation artistique au sein des classes, hein, un projet d'établissement, sûrement, dans ma petite école, le proviseur a dit « il faut que les clowns viennent ». Et j'ai été touché par Isotherme et Thermostat, qui étaient deux clowns que je n'ai eu qu'envie de cesse d'imiter tout au long de mon enfance avec mon cousin Bernard. On faisait les premières représentations théâtrales. Donc on prenait des chaises, qui étaient des chaises souvent de la campagne où j'étais, et on allait dans les champs, qui s'enfonçaient dans la boue, ces chaises. Mais on avait convoqué du public, on avait fait des cartes d'invitation, on avait même une tente maquillage, une tente costume. Et c'était le début déjà de ce que j'assume aujourd'hui en tant que directeur des Tréteaux de France, du théâtre à la rencontre des gens.
Est-ce que tous ces éléments qui ont constitué votre vocation, vous l'évoquez dans votre livre de souvenirs, tous ces hasards qui n'en sont pas, est-ce qu'on va les retrouver, ces souvenirs, dans le spectacle, ou est-ce que vraiment vous allez vous effacer derrière les grands auteurs que vous avez choisis?
Alors, ça sera les grands auteurs en premier, parce que j'aime bien, non pas m'effacer, mais être le serviteur des auteurs. Et on parle de soi quand on parle des autres. Quand on sait bien parler avec les autres et aux autres, on dit beaucoup de soi-même. Ce qui m'importe, en effet, c'est que le public soit... un public très proche, avec une oreille et un œil qui voit, qui construit. J'aime bien un théâtre qui donne à voir et à entendre plutôt qu'un théâtre qui montre. Donc c'est permettre l'oreille de l'autre d'avoir sa place, la reconnaissance de celui qui écoute et qui voit.
Vous avez eu l'embarras du choix pour trouver les auteurs qui vont accompagner l'enfance à l'œuvre ?
Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la vocation, qui parlent de l'enfance, bien sûr, mais peu sont de grands génies, je dirais, de l'écriture, qui arrivent avec des mots très simples, avec un champ langagier qui n'est pas très complexe, au fond, mais qui fait que parfois c'est parce que la phrase est longue qu'elle est dure à lire. Chez Marcel Proust, c'est parce qu'elle n'en finit plus. Mmh. D'aller à son éclosion, cette phrase, puis ensuite elle n'en finit plus, de retomber à sa fin, de conclusion, et qui fait qu'à lire tout seul, on a parfois du mal. Donc quand un acteur fait le chemin avec l'œil qui voit les images et l'oreille qui écoute, et qu'on lui donne à entendre ces phrases-là, elles deviennent musicales, tout simplement, elles deviennent simples. Il faut un petit peu mâcher ce travail pour que l'autre ait le désir de venir s'y accoler ensuite.
Donc, outre Proust, Rimbaud et Gary, quels sont les autres auteurs qui vont habiter le spectacle ?
Je pense qu'il y aura un peu de Paul Valéry, parce qu'il est parfois hermétique, et en même temps, il dit des choses très importantes sur cette marque de l'enfance, sur comment, toute sa vie d'homme, il a cherché à retrouver cette éclosion qu'il a eue dans l'enfance en écoutant de la musique. Lui, c'était par la musique. Et il n'aura de cesse que d'entendre de la musique et de parler comme de la musique. Et ça, c'est très beau d'entendre la parole liée à la musique. Et il y aura une place importante pour la musique. Donc, je serai accompagné avec un pianiste. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une séance de lecture. On ne lit pas des textes, mais c'est bien un moment de théâtre où les deux partenaires vont mémoriser toutes ces œuvres et les dire, les faire parvenir à l'oreille.
Le pianiste, c'est Nicolas Stavy, je crois.
Oui.
Il va jouer des compositions originales ou alors là aussi, il y aura des grands musiciens qui vont...
Je pense qu'il y aura aussi des musiciens, parce que la barre est assez haute. Voilà, c'est très exigeant et en même temps, c'est vraiment miser sur l'oreille et l'intelligence du public. C'est le projet de miser sur l'autre qui peut recevoir des choses très exigeantes comme Jean Villard, pour que nous sommes dans Avignon, doit être cité ici, misait sur cette intelligence en allant proposer aux ouvriers de Suresnes les diverses grandes œuvres de Ruy Blas ou des merveilleux auteurs classiques, Corneille en l'occurrence. Donc, miser sur cette intelligence et avec une musique aussi qui est parfois une musique qui n'est pas perçue, simple et qui peut, si le musicien a aussi fait son travail d'image, accompagner encore plus l'oreille. Rachmaninov peut-être, Schubert, ou voilà, c'est en train de se préciser, mais César Franck peut-être, oui.
Vous avez déjà travaillé avec un pianiste, pour le pianiste justement.
Voilà,
qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ce petit pas de côté qui fait que l'acte de parler à l'oreille du public avec la musique et les mots, l'acte est plus fort, je crois. Enfin, c'est très puissant et moi ça me ressource énormément. Ce sont des pianistes et des compositeurs qui nous amènent à encore plus être exigeants, je dirais. Voilà.
Il y a un dialogue entre l'interprète et le musicien pendant le spectacle ?
Oui, c'est une présence très importante d'échange. Ce sont deux corps dans l'espace. Il y aura peut-être même un travail, je pense, corporel qui fera qu'on sera, je ne dis pas que ça sera dansé, mais il y aura sûrement un rapport concret, charnel au corps dans l'espace.
Alors, vous allez faire partie de ce que Olivier Py appelle la décentralisation des 3 kilomètres. C'est-à-dire que déjà, en tant que directeur des Tréteaux de France, vous faites du théâtre itinérant et vous allez balader, mais dans le meilleur sens du terme, ce spectacle pendant le Festival d'Avignon, comme c'est la tradition depuis qu'Olivier Py a pris la direction du festival. Vous teniez vraiment à avoir une proposition nomade ?
Oui, c'est le terme, c'est le nomadisme, c'est s'installer un peu avec les gens, prendre le temps d'être avec eux, hors des foyers les plus importants où le public est très souvent nombreux, aller élargir ces publics, augmenter cette possibilité de rencontrer des gens en allant à leur rencontre, qui ne seraient pas forcément venus nous voir. Donc j'ai un grand plaisir, j'ai eu la chance de jouer 3 fois dans la cour d'honneur, donc dans des lieux tellement forts qu'aujourd'hui, aller dans une salle de cours, de classe peut-être, une cour d'école, une salle des fêtes, un lieu qui est parfois moins noble comme lieu de théâtre, et apporter à cet endroit-là ce qui est mérité, ce qui est beau, et ce qui manque au théâtre, c'est-à-dire un public dont on a besoin qu'il soit là, c'est ma mission de directeur de centre dramatique également.
Il y a cette mission civique qui vous habite, j'ai envie de dire, depuis toujours, puisque vous êtes un enfant des Nuits de l'Enclave de Valréas,
oui.
Et des stages de réalisation
de
René Jauneau. Bon, la cour d'honneur, lorsque vous êtes apparu dans la cour d'honneur. Vous n'étiez pas tout seul, mais vous avez participé à des spectacles qui ont marqué l'histoire du festival. Le Hamlet de Shakespeare mis en scène par Chéreau, puis l'extraordinaire aventure du Sugar Satin. Et puis moi, j'ai un souvenir, mais très récent. C'était il y a 3 ans, je crois, dans la boîte noire de l'Opéra d'Avignon, mai-juin-juillet.
C'est vrai.
Et tout à coup, j'ai vu arriver une silhouette de la pénombre, comme ça, qui arrivait, avec les moustaches. Et sincèrement, je me suis dit, c'est vraiment le fantôme de Villard qui est là, quoi. Qu'est-ce que c'est pour un comédien d'incarner Jean Villard ? Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, je ne sais pas si je pouvais l'incarner, mais en tout cas, faire ce qui s'est passé pour vous, c'est-à-dire que le spectateur, à ce moment-là, a entendu la parole de Villard. Donc, vous avez voulu voir, parce que c'était bien moi,
oui.
C'était bien moi, mais simplement, et je n'ai pas fait un travail de composition extrême, un peu, voilà, avoir un peu de moustache et un peu de, je dirais, de rouflaquette des
68,
années
hein.
70, voilà, ça permettait de rendre l'identification un peu plus facile pour le spectateur, mais ce qu'il s'agissait pour moi, c'est de faire entendre la pensée de Villard. Voilà, pas singer un personnage, mais ce que vous avez vu, Michel, c'est ce que peut-être beaucoup de spectateurs ont vu et ont entendu, surtout les mots toujours vivifiants de la parole de Villard. Derrière, on entend ceux de René Char et tous ceux qui ont pensé à ce théâtre populaire comme un lieu de partage et d'échange, de communion laïque, fraternelle, où les gens se rassemblent et s'unissent par le biais du théâtre.
Pour en revenir à l'enfance à l'œuvre, d'après ce que j'ai compris par rapport à ce que vous venez de me dire, j'ai la sensation, parce que bon, cet été, lorsque vous allez tourner dans les villages, c'est pareil. Moi, mes parents, quand ils allaient au théâtre, ils n'allaient pas voir Lucide, ils allaient voir Gérard Philippe. Mmh. Et cet été, on va aller voir Robert Enucci, parce que vous êtes très connu, ne serait-ce que grâce au Village français, qui est encore passé récemment à la télévision. J'ai la sensation que vous ne voulez pas montrer que ça, vous voulez montrer un vrai spectacle.
Oui, bien sûr, mais je suis heureux d'avoir une notoriété. Oui. Simplement, j'ai toujours fui le star system.
Non, mais généralement, on peut imaginer un comédien comme ça, immobile, à côté d'un pianiste. Voilà. Je pense que ça va être plus que ça.
Ben oui, déjà, ça va être toujours des rencontres avec le public. C'est ce qui m'intéresse, parce qu'il y a un avant, il y a un après ce moment partagé avec les auteurs, qui est assez incandescent. Mais ce qui m'importe, c'est de vraiment parler aux gens et d'être attentif aux images qu'ils sont en train de construire quand je leur parle. Pour moi-même, c'est un petit déséquilibre. On vient écouter un auteur, surtout. On vient écouter, bien sûr, l'acteur qu'il transmet, mais les auteurs vont compter et la place de la musique et l'exigence de l'écoute, voilà, est très importante. C'est ce qui prime.
La mémoire, c'est important ?
Ah oui, c'est fondamental, la mémoire. C'est le lien avec tout. C'est parce qu'on peut se souvenir de quelque chose qui vous a été transmis par d'autres et que vous allez transmettre à d'autres. Et l'écriture est la mère et la mémoire de tous les arts. C'est pourquoi j'ai envie de repartir de l'écriture.
L'enfance à l'œuvre, c'est donc ce spectacle que nous allons découvrir cet été. On en saura plus mardi à 19h30, puisque vous serez à la Fabrica pour rencontrer les spectateurs du futur Festival d'Avignon. Et puis à la Fabrica, actuellement, ben, vous y êtes pour répéter. Alors là, j'avoue que je ne connais pas la valeur.
Alors, vous ne pouvez pas le connaître, puisque le titre est de nous, oui. Très tôt de France, c'est la valeur. Donc, vous entendez dans cette acception des termes-là deux choses. La valeur, comme la valeur des idées, la valeur marchande.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est
également
vrai.
La valeur, donc vous voyez que... Il est là,
c'est plutôt quelqu'un qui engouffre, d'après l'orthographe.
C'est un avaleur, voilà. L'apostrophe. Et l'avaleur, ben, c'est à la suite du Faiseur que j'ai fait, qui était un spectacle autour de la pensée d'Honoré de Balzac sur la bourse et sur la façon de faire de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire qu'avec rien, on fait des billets de banque et on en fait d'autres. Et nous sommes toujours dans cette époque compulsive de l'argent. Eh bien, c'est le défaiseur, c'est-à-dire l'homme qui va désindustrialiser une entreprise, constater qu'elle vaudra plus, elle vaudra financièrement plus morte que vive. C'est-à-dire en revendant l'eau par l'eau l'entreprise, en délocalisant...
Ça ne se fait plus du tout par le temps qui court.
En augmentant la marge de bénéfice pour les actionnaires, eh bien on fait davantage d'argent et au détriment, bien sûr, de l'humain et de la perte, de la mort de cette entreprise. Donc c'est comment on parle de la désindustrialisation dans un thème des Tréteaux de France aujourd'hui, dans lequel le spectacle dont nous avons parlé juste avant, l'enfance à l'œuvre, est. C'est-à-dire qu'est-ce que la valeur du travail ? Qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que la richesse, au fond ? Est-ce que ça n'est que la richesse matérielle et financière ? Ou bien c'est autre chose, la place de l'homme dans ce qu'il construit, ce qu'il œuvre, les savoir-faire, les traditions du travail qui sont plus importantes peut-être que l'argent.
Un texte de Jerry Sterner.
Un auteur américain. Voilà, et parler de l'Amérique aujourd'hui aussi, c'est intéressant. Si je devais résumer la pièce, c'est un grand financier qui prend le pouvoir.
Et c'est un spectacle que vous mettez en scène, mais que vous jouez également, vous faites partie, oui, de la distribution.
Oui, je fais partie des 5 acteurs. On retrouvera d'ailleurs des acteurs qui ont beaucoup joué à la Cour d'honneur ou à Avignon. On ne sait pas encore si le spectacle sera joué dans le cadre d'Avignon, pour pas qu'il y ait de confusion avec L'Enfance à l'œuvre. Mais j'espère aussi retrouver les spectateurs avec ce
Peut-être du
ce
côté spectacle. De Valréas.
Sans doute, puisque nous allons régulièrement au festival de Valréas.
Vous avez même ressuscité les Nuits de l'Enclave.
Voilà, il est toujours vif, ce festival.
Merci infiniment Robert Renucci, bien rendez-vous donc ce mardi à 19h30 à la Fabrica et puis surtout l'été prochain donc en nomade pendant le Festival d'Avignon.
Merci Michel.